De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucien Dale, Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
On reçoit maintenant Mme Claudine Lachapelle, qui est directrice générale de la commission scolaire de Sorel-Tracy. Mme Lachapelle, bonjour. Approchez-vous, qu'on vous entende très bien.
Bonjour.
Mme Lachapelle, on vous reçoit parce que la semaine dernière, notre collègue André Champagne publiait une nouvelle concernant l'ajout de classes modulaires à Saint-Gabriel, à l'école Saint-Gabriel-Lallemand. Et ceci suivant, défavorisation de l'école qui obligerait à cet aménagement-là, défavorisation de 9. Bon. Tout ça, pour le commun des mortels, ouais, c'est du chinois. Alors, je pense que la première chose qu'on va établir avant de parler de ces classes modulaires, ce serait d'établir, premièrement, c'est quoi la défavorisation d'une école et que veut dire une défavorisation de 9?
Qu'en est-il?
Donc, on parle d'indice de défavorisation. Par contre, au niveau du ministère, on va parler plus d'indice socio-économique. Donc, l'indice socio-économique, c'est des cartes, des données qu'on reçoit annuellement du ministère. Donc, les dernières données disponibles pour nous datent de 2015-2016, mais habituellement, là, ce qui s'en vient. Les indices socio-économiques ou de défavorisation sont teintés de deux éléments, de deux modalités. Donc, premièrement, la proportion des familles dont la mère est sans diplôme et également la proportion des familles des parents qui n'ont pas d'emploi, donc dont le ménage n'a pas de revenus reliés à un emploi là ou être sur le marché du travail. Donc, ces indices-là permettent à une commission scolaire ou en tout cas de déterminer nos écoles à indice de défavorisation. Donc, c'est 7, 8, 9 et 10. Donc, pour nous, à la commission scolaire de Sorel-Tracy, je vous dirais qu'on a plus de 60% de nos écoles primaires en indice de défavorisation 8, 9 ou 10. Donc, c'est quand même pas rien.
La défavorisation étant plus élevée, le chiffre est élevé, bien sûr.
Oui, c'est ça. Donc, nous, on a une école à indice de défavorisation 10. On a quelques-unes à indice de défavorisation 9 et 8 également, mais 9... quand même un bon montant. On a, pas un bon montant, mais un bon nombre. Là, on a quand même quatre écoles à indice de défavorisation 9.
Est-ce qu'on est en augmentation?
Je dirais qu'à comparer avec la carte de défavorisation 14-15, oui, il y a une augmentation là, en termes d'indice là, de 8 à 9 pour une école.
C'est étonnant.
C'est pas étonnant, vu le contexte.
On le voyait venir?
Je pense qu'on le voyait venir, oui. les indices de défavorisation viennent également teinter, on est en milieu scolaire, donc viennent également teinter le ratio maître-élève dans ces écoles-là. Donc, pour nos élèves, nos écoles qui ont des indices de défavorisation 8, 9 et 10, donc entre autres 9 et 10, donc on va aller avec des ratios qui sont beaucoup plus bas. Et la nouvelle convention collective des enseignants, donc la convention collective 15-20, 2015-2020, vient revoir les ratios, en particulier pour les ratios au niveau du préscolaire 4 ans, donc qui passe de 15-17 à 14-17, et pour nos classes de préscolaire qui étaient à 18-20, passe de 17 à 19. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, sur un total d'élèves X, oui, ça a un impact. Et l'ensemble de nos écoles défavorisées, avec des indices quand même assez élevés, ont des taux, des ratios maître-élève de la première année à la sixième année à 18-20. Donc, comparativement à des milieux où on n'a pas un indice de défavorisation élevé ou on n'a pas d'indice de défavorisation. Je vais juste vous donner l'exemple au niveau d'une sixième année. Sixième année, on va être à 24-26. Donc, vous comprenez que le ratio dans une classe diminue.
Si je comprends bien, là, donc plus l'indice de défavorisation est élevé, plus on doit accorder, plus d'attention à la clientèle, donc moins d'élèves par classe.
Ben, c'est en fait ce qui est prévu dans la convention collective. Donc, oui, pour répondre à votre question, la réponse est oui.
Alors, devant ce problème-là, il fallait des solutions.
Oui, il fallait des solutions.
Et ce qu'on a trouvé, c'est?
Là, vous me parlez des classes modulaires.
Oui.
Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, avec ces informations-là, avec cette carte-là et avec le ratio maître-élève, mais en ajoutant également d'autres éléments, on a fait quand même une analyse importante, puis on a fait des scénarios possibles. Donc, on avait des scénarios. Donc là, vous avez parlé des classes modulaires. Donc oui, il y a un premier scénario qui était concernant l'ajout de classes modulaires parce qu'on est en déficit quand même au niveau de l'école Saint-Gabriel-Lallemand de 6 classes. Au niveau de l'ensemble du territoire, on est en déficit de 6 classes. Au niveau de Saint-Gabriel-Lallemand, de 4 classes. Mais si on considère les espaces de vie ou les espaces de service pour les élèves, on serait à moins 6 classes. Ça, c'est un premier scénario, les classes modulaires. On a regardé aussi les possibilités d'agrandir par l'intérieur des écoles, donc de regarder des endroits où on aurait pu, diviser un local en deux, faire des aménagements dans l'école en enlevant des aires de service comme les laboratoires informatiques ou comme les bibliothèques. Et c'est certain que plus on avançait dans cette analyse-là et quand on a fait cette présentation-là, ben nous, dans le fond, la priorité qu'on accorde aux élèves, c'est un environnement qui est adéquat pour eux. Ouais. Donc, c'est sûr que agrandir par l'intérieur, ça a son avantage, mais pas pour les élèves. Donc, là, on enlève vraiment des services aux élèves, ouais. Puis on arrive dans des milieux qui sont très où on a une densité d'élèves qui est beaucoup plus grande en lien avec la capacité d'accueil de l'école, même si c'était pour une base temporaire là, de 2 ans. Et également, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on aurait également, si on avait été vers un scénario comme celui-là, on aurait dû également modifier les aires de desserte au niveau de Sorel-Tracy. Ouais. Et pour nous, quand on a fait vraiment l'analyse, on a pensé que c'était pas la meilleure des solutions. Donc, pour nous, la meilleure des solutions, qui est une mesure temporaire, donc classe modulaire à Saint-Gabriel-Lallemand, 4 classes, qui vont être équipés, qui vont être climatisés et qui vont nous permettre pendant ce temps-là de pouvoir réaménager une autre école pour bien sûr accueillir des élèves parce que si on est en déficit pour l'année 17-18, on le sera également pour 18-19. On a fait une projection pour 2 ans.
Avant d'établir plus précisément comment se fonctionneront ces classes modulaires-là, il y a une chose qui me frappe, et je ne sais pas si c'est la même chose pour les gens à la maison, mais là, on vient de dire que on fonctionne en ce moment à Saint-Gabriel-Lallemand d'une certaine façon. Là, on donne une cote qui fait en sorte qu'on devra fonctionner avec plus de classes, mais avec la même clientèle, ou si la défavorisation des autres écoles influe et amène d'autres clientèles?
Non, c'est vraiment la même clientèle.
La même clientèle. À ce moment-là, on a besoin aussi, j'imagine, de plus de ressources, parce que s'il y a plus de classes, ça veut dire plus de professeurs?
Oui, c'est certain que à partir du moment où dans la convention collective, où on a une baisse de ratio maître-élève en milieu défavorisé, le financement pour les enseignants arrive aussi avec ces indices-là.
Une enveloppe particulière, là.
Ben, c'est pas une enveloppe particulière, c'est le calcul. Quand nous, on va calculer l'organisation scolaire, le calcul va se faire avec un nombre d'élèves réduit dans cette école-là. Là, je parle de cette école-là parce que c'est Saint-Gabriel qui est visé, mais pour l'ensemble des écoles en milieu défavorisé, le calcul du ratio maître-élève, quand on fait l'organisation scolaire, c'est là qu'on l'octroie du nombre de groupes par école ou par niveau va se faire et c'est vraiment par là que ça passe. Donc, le financement vient également avec, mais pas dans une enveloppe particulière, M. Lemay.
OK. Votre enveloppe va être modifiée, bonifiée, si on veut, pour accommoder cette nouvelle réalité-là. Mais c'est parce que ça nous apparaît de l'extérieur, ça nous apparaît comme contradictoire de la part du ministère de dire dans les deux ou trois dernières années, ben il faut que vous coupiez, il faut couper. Puis là, on vous arrive avec une nouvelle réévaluation, puis on vous dit Ben là, on va dépenser plus parce qu'on a besoin de plus de personnel, puis plus de place, puis...
Ben en fait, le plan de redressement de la commission scolaire se poursuit quand même. Là, on est à la troisième année du plan de redressement. Pour nous, c'est vraiment l'organisation scolaire. Le calcul se fait en fonction de l'organisation scolaire. Organisation scolaire, le nombre d'enseignants octroyés. Et on a un indice de défavorisation vient avec des enveloppes particulières. Jusqu'à maintenant, on verra pour les allocations de consultation qui devraient nous arriver au mois d'avril. Donc, on n'a aucune idée encore pour l'année 17-18. Mais si je vous parle juste en termes d'organisation scolaire, en termes de nombre d'enseignants, oui, le calcul va se faire à partir des ratios maîtres-élèves pour ces écoles-là.
Oui, tantôt, vous nous parliez des solutions à ce problème. Vous avez mentionné deux solutions. Il y en a une troisième, je crois. Sur l'utilisation d'une autre école?
Ben, c'est sûr qu'on avait une autre possibilité d'une autre école. Là, vous me parlez de l'école Saint-Viateur?
Oui.
Oui,
ouais,
c'est ça.
Avant d'aller à Saint-Viateur, est-ce qu'on pourrait pas expliquer aux gens comment ça va fonctionner, par exemple, ces classes modulaires-là? Parce que faut que les gens, que ça pourrait apeurer de dire, bon, ma clientèle, ouais. mes enfants vont être dans quoi?
Dans des roulottes.
Dans des roulottes.
Et
ou
non,
dans quoi?
C'est pour ça qu'on n'utilise pas le terme roulotte, parce qu'ici, on parle vraiment de classes modulaires. Ce sont des classes qui vont être neuves. À partir du moment où l'octroi du contrat va être donné, ce sera des roulottes neuves qui vont arriver pour quatre classes.
On parle plus de construction préfabriquée, bien adaptée aux besoins.
Ça, c'est pas ma compétence, Monsieur Lemay.
Non, mais ce que je veux dire, c'est vous parlez de...
Oui, c'est bien aménagé.
Roulotte, là,
oui,
c'est...
on parle de vraiment classes modulaires bien aménagées, avec corridors, air climatisé. Pour les enseignants et pour l'équipement, ce sera des classes qui seront pas en déficit d'équipement. Donc, ces classes-là vont être équipées comme les autres classes.
Ouais.
Donc, si on a besoin d'un tableau interactif, il y aura un tableau interactif. D'ailleurs, dans notre demande initiale d'ajout d'espace, c'est une demande qui a été faite. Donc, nous, on a rassuré là, la direction d'école parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions de la part du personnel, puis on peut le comprendre.
Ouais.
Mais c'est certain que ces classes-là, à partir du moment où elles seront montées, où elles seront ajustées ou adaptées à l'école, là, qu'elles seront mises en place, je vous garantis que les élèves vont y voir. En tout cas, les photos que moi j'ai vues...
Ils vont presque faire des jaloux, finalement.
Ben, en tout cas, je suis pas prête à dire ça, mais en même temps, je pense que c'est faut
pas... Ils seront pas perdants.
Non, ils seront pas perdants. Puis il faut pas sous-estimer non plus les classes modulaires, là.
Ouais.
Puis je veux juste vous dire qu'on n'est pas la seule commission scolaire aussi qui va vers des classes modulaires, parce que en préparation de projet, ben c'est sûr qu'il faut les mettre en quelque part, nos élèves. On veut s'assurer qu'il y ait un bon environnement. Puis ça fait partie, là, ça a été notre priorité dans nos réflexions.
Mais c'est un précédent.
Pour la commission scolaire ici, oui.
Et bon, puis tout ça serait mis en place dès l'automne prochain, dès la rentrée 2017-2018, et pour 2 ans.
Pour 2 ans, le temps de recevoir, parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, on a fait une demande de projet. Donc, on a déposé un projet qui a deux actions dans le projet, donc l'installation des classes modulaires de façon temporaire et l'agrandissement d'une école, parce que ces élèves-là, va falloir les installer à un moment donné dans une école.
Et ça peut pas être l'agrandissement de Saint-Gabriel comme tel, là. C'est plus possible, là.
Non, dans les coûts, ce serait, on a une autre possibilité, une autre alternative, et pour nous, je crois que c'est la meilleure alternative.
Et il s'agit de déplacer cette clientèle-là, éventuellement, à Saint-Viateur.
C'est ça. Donc,
Saint-Viateur qui, pour l'instant, est inoccupé.
Donc, Saint-Viateur est inoccupé, donc il y avait eu fermeture de Saint-Viateur... là, je dois dire que on est dans la deuxième année où Saint-Viateur est inoccupé. Lors des dernières années où il y avait eu de l'occupation à Saint-Viateur, on parlait de l'occupation du CFAR. Donc là, présentement, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a eu CFAR, il y a eu aussi démantèlement, il fallait faire de la place à une industrie, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, c'est sûr que...
subdivision de...
Là, au niveau de Saint-Viateur, on a la structure, mais il faut refaire l'ensemble là, de l'école. Donc, il faut restaurer l'ensemble de l'école. Et étant donné que c'est un projet quand même de grande envergure, on a décidé de jumeler le projet à un ajout d'espace au niveau d'un gymnase également. Mmh. Donc, ce qui fait en sorte que le projet deviendrait quand même assez intéressant. Et pour jumeler à l'école Maria Goretti et pour donner aussi un espace, plusieurs espaces de service à Maria Goretti, oui. qui, elle aussi, je dois dire, est en déficit d'espace pour l'environnement de ses élèves. Donc, ils sont quand même bien, mais c'est sûr que aménager là, un espace ou aménager des classes supplémentaires à l'école Saint-Viateur, nous amènerait là des éléments là intéressants pour l'environnement des élèves. Et ce choix-là aussi serait teinté d'école cycle. Donc là, si l'autorisation elle est faite, donc on ferait de Saint-Viateur une école de premier cycle et préscolaire, et nous ferions de Maria Goretti une école de deuxième et troisième cycle. Donc avec chacun leurs espaces au niveau là des services.
Ça commande. Là, on parle de Maria Goretti. Là, quand vous parlez de Maria Goretti, Saint-Viateur, tous les gens s'entendent que c'est pas grave, sont une à côté de l'autre.
C'est collé.
Mais quand on parle de déplacer, par contre, de la clientèle quand même assez éloignée là, de l'autre côté de la de ce côté-ci de la rivière, là, assez éloignée du côté de Sorel, du secteur là, où se trouve Saint-Gabriel-Allemand vers Saint-Viateur, ça veut dire aussi toute une structure différente pour le transport scolaire, j'imagine.
Ben là, je dois vous dire que pour le moment, là, on est plus dans l'organisation puis l'orchestration de tout le volet construction, mais c'est certain qu'on va avoir 2 ans pour revoir le transport et au niveau des aires de desserte, ben là, ça sera analysé aussi là. Mais actuellement, je dois dire que les aires de desserte pour les 2 prochaines années ne seront pas modifiées.
Alors là, pour l'instant, donc on parle de les classes modulaires en septembre prochain,
oui.
à Saint-Gabriel, l'ajout de 4 professeurs, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça, c'est des ressources qui s'ajoutent. J'imagine des gens qui sont à temps incomplet en ce moment qui vont avoir des tâches plus complètes. Alors ça, ce sont de bonnes nouvelles. Puis ensuite, ben, vous êtes dans l'attente de budgets qui vous permettront, oui. de passer à la phase 2.
Donc, on est vraiment dans l'attente là, des autorisations du ministère. Donc, attente d'autorisation pour les classes modulaires, mais nous, l'allocation des classes modulaires, nous, ça nous inquiète pas trop. Et on est dans l'attente également du projet qui a été déposé.
Ça,
là,
c'est moins certain.
Ben, on espère beaucoup parce que vraiment, c'est pour nous la meilleure des solutions. Et on sait que c'est pas du court terme, c'est du long terme. Donc, on a fait vraiment l'analyse, on a fait une projection au niveau de la clientèle. Et c'est certain que ça amènerait une valeur ajoutée là à tous nos élèves.
Ouais, après des années de restrictions, ce sont des belles perspectives.
Ce sont des belles perspective. J'ai de la misère avec ce mot-là. Oui, c'est sûr que une commission scolaire pour être dynamique, là, ça prend des beaux projets.
Ouais.
Donc là, on a puis je veux pas nécessairement revenir là-dessus, mais on a Saint-Roch là qui est en bonne voie.
Bien sûr, oui.
On a quand même déposé un projet en même temps que le dépôt du projet de l'école Saint-Viateur. On a quand même déposé également un projet conjoint avec la municipalité de Yamaska. Pour un agrandissement de l'école. Donc, c'est sûr que ça dynamise une commission scolaire, puis c'est ce qu'on souhaite pour nos élèves.
Ouais.
Ben, c'est bon à savoir. C'est bon à recevoir comme nouvelle, devrais-je dire plutôt. Puis, même si, à quelque part,
oui.
c'est basé sur une situation qui est pas rose-rose. Si économiquement, on est obligé de faire ça, c'est que on a aussi d'autres problèmes à régler, mais ça, c'est pas de votre sort.
Ouais.
On va s'assurer de donner les bons services aux élèves.
Tout au moins, on réagit.
C'est ça.
Absolument. Merci beaucoup, Mme Lachapelle.
Ben, je vous remercie beaucoup.
Claudine Lachapelle, directrice générale de la Commission scolaire Sorel-Tracy. On fait une pause, on vous revient tout de suite après.